France Inter.
Président de la Cinémathèque française, le cinéaste Costa Gavras mène depuis plusieurs décennies à travers ses films une réflexion autour du pouvoir, de la justice, du mensonge, de la violence et de la résistance. Et partout en filigrane, le sens de la vie et la menace de la grande faucheuse. Celui qui débuta comme assistant d'Henri Verneuil, Jacques Demy ou René Clément, sortit son premier film en 65, Compartiment tueur, adapté du livre de Sébastien Japrisot. Maniant aussi bien le thriller politique que le mélodrame, le réalisateur de Z, L'Aveu, Missing, Mad City, Amen, Le Couperet ou Music Box, recevra un César d'honneur à l'occasion de la 50e cérémonie le 28 février prochain. Son nouveau film, Le Dernier Souffle, adapté du livre éponyme de Régis Debray et Claude Grange, est sorti en salle ce matin. Il traite de la fin de vie et de son accompagnement. Denis Podalydès y campe un philosophe anxieux se liant d'amitié avec un médecin spécialiste des soins palliatifs joué par Kad Merad. Va naître entre eux un dialogue socratique sur la déontologie et l'honnêteté des médecins face aux mourants, au gré des rencontres d'êtres qui abordent chacun leur fin d'une façon différente. Un précis d'humanité. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Costa Gavras.
Bonsoir.
Joyeux anniversaire. C'est votre anniversaire ?
C'est mon anniversaire, oui.
Vous allez le fêter ?
On l'a fêté un peu, et puis on l'a fêté surtout en présentant le film dans certaines salles. Les gens y ont su, et tout d'un coup, il y a eu des petits chants comme ça, Happy Birthday. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on dit Happy Birthday, puisque Joyeux anniversaire, c'est très bien aussi, oui.
Oui, c'est vrai. Oui, mais on aime bien parler anglais de plus en plus à notre époque. Ouais. Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Bah écoutez, la première fois que j'ai montré le film, dans une salle pleine, et avec il y avait peut-être 1000 personnes, et j'attendais avec angoisse la fin. Et ils ont bien réagi. Et c'était une grande émotion, parce que, vous savez, vu le sujet, le thème, etc., ça nous faisait très peur. Voilà.
On va parler du film en détail, mais avant, j'aimerais vous poser quelques questions sur vous, si vous l'acceptez.
Je vous en prie.
Est-il vrai que vous avez décliné la réalisation du film Le Parrain, puisque le livre de Mario Puzo était mauvais ?
Absolument. Absolument. Et je n'aurais jamais fait un film comme l'a fait Coppola, parce que Coppola, il a un talent énorme, il était italien, il vit sur place. Le livre m'a déplu profondément.
Pas de regret ?
Aucun.
D'accord. Vous avez grandi en Grèce et je crois que vos premiers contacts avec le cinéma eurent lieu les dimanches quand vous grimpiez aux arbres pour regarder le seul divertissement.
C'est vrai, dans les salles d'été, comme ça, parce qu'on n'avait pas les moyens pour entrer dans la salle, on grimpait. Parfois, on voyait la moitié ou un tiers de l'écran. Mais c'était une période formidable, même.
Mais le pouvoir surveillait tout déjà.
Oui. Absolument.
Vous lisiez aussi beaucoup d'auteurs français en Grèce, parce que pour vous, la France, c'était le pays de l'écriture. Vous vouliez écrire, donc vous lisiez Zola, Mauriac, Balzac.
De l'écriture et de la liberté, voilà. Et c'est vrai que dans les auteurs que vous avez cités, c'est ça, tout le temps.
Et vous écriviez des poèmes aussi.
J'essayais, mais quand je les ai relus, je les ai jetés.
Il paraît que vous avez travaillé dans les ateliers de réparation des machines à écrire Olivetti. Tout était lié à l'écriture.
Oui, c'était une chose terrible, parce qu'il fallait changer les pièces, les nettoyer au pétrole, je ne sais pas quoi, et puis les remettre. C'était un travail de grande ennui.
Et alors, en arrivant à Paris, vous vous êtes inscrit à la Sorbonne pour apprendre à écrire. Est-ce que ça s'apprend, l'écriture ?
Je pensais que ça s'apprenait, mais c'est très difficile à s'apprendre, finalement. Et je me suis aperçu aussi que n'ayant pas été français d'origine, c'est-à-dire être né en France et avoir appris les premiers mots, c'est très difficile d'apprendre la langue à fond. Voilà. Et alors, dès que j'ai vu à la Cinémathèque française précisément un film qui n'était pas un cow-boy, qui n'était pas un film d'action, qui était une sorte de tragédie d'Eric von Stroheim, je me suis dit, voilà, bon, on peut écrire avec des images. Voilà. Et j'ai viré, je suis allé à l'école du cinéma.
Alors ça, je comptais vous en parler, mais juste avant, j'ai lu que vous aviez aussi dansé à Paris à l'âge de 6 ans dans une troupe de ballet grec.
Oui, c'était un ballet de danse folklorique essentiellement. Et comme j'essayais d'avoir une accroche avec la France, j'ai su que ça faisait, qu'il y avait un voyage, donc je suis allé. Ça a été très dur d'apprendre les danses, mais j'ai appris vite. J'étais jeune, etc., et puis un peu sportif, parce que les danses grecques, folkloriques, sont un peu sportives, pour dire la vérité, oui. C'est une expérience formidable, parce que pendant semaine, pendant 5 jours, une semaine entière, on a joué au Théâtre des Champs-Élysées. Plein de monde qui applaudissait, j'en rêvais pas, qui puisse aimer ces danses-là.
Êtes-vous sentimental?
Je ne sais pas, si je crois, oui. Peut-être un peu trop, mais on me dit parfois, oui.
Est-ce que le fait que votre père soit originaire d'Odessa vous a autant influencé que la culture grecque?
Oui, autant, parce qu'il était complètement grec, enfin. Mais son origine était d'Odessa, de cette partie-là, de la mer Noire, oui.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec le cinéaste et président de la Cinémathèque Costa Gavras qui vient de sortir le film Le Dernier Souffle.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Non, je demandais au patron des informations sur l'au-delà. Oui. Je vais partir bientôt. Et je ne vois pas bien ce qui m'attend. Mmh. Il doit bien y avoir quelque chose, quand même. Autrement, ce serait désespérant. Rendre l'âme. Oui, rendre l'âme, je veux bien. Hein. Mais dites-moi à qui?
Pourquoi voulez-vous rendre quelque chose qui est à vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas?
Il n'est pas d'ici, lui.
Oui, non, il est philosophe.
Ben, c'est bien ce que je pense aussi. Hein.
Alors ne la rendez pas.
C'est Françoise Lebrun.
Lebrun, oui. Admirable.
Admirable, elle est extraordinaire. Oui. Oh là là, ouais, depuis Eustache et toujours aujourd'hui sublime. Dans Le Dernier Souffle, votre dernier film, Costa Gavras, une femme qui est dans le service de soins palliatifs du docteur Massé, jouée par Kad Merad, qu'on entend avec Denis Podalydès, qui campe un philosophe venant de passer un IRM et qu'une tache située entre le foie et les poumons inquiète. Il rencontre alors Massé et l'accompagne dans ses consultations. Et l'extrait qu'on vient d'entendre est suivi d'une conversation sur Dieu, le paradis. Et je me souviens d'une scène dans Le Couperet où... il est dit, toi là-haut, si tu existes, fais que ce boulot soit pour moi. Alors ma question, Costa Gavras, c'est quel est votre rapport à la foi et au sacré, quel qu'il soit?
Au sacré, je pense que c'est très important pour beaucoup de monde. Je suis né dans une famille chrétienne, avec une mère très chrétienne. Bon, je m'en suis éloigné par la suite. Mais je pense que j'ai grand respect pour les gens qui croient. Parce que pour des raisons diverses, notamment parce qu'ils s'adaptent à la croyance. Ce qui m'ennuie beaucoup, c'est quand la croyance prend le pouvoir civil. Ça, c'est inacceptable, à mon avis. Voilà. Et ça fait des dégâts partout, toujours. Voilà. Par contre, ceux qui croient, c'est aussi une grande consolation pour l'après. Parce que le grand problème humain, c'est l'après. Après la mort.
Et vous, en quoi croyez-vous?
Non, moi, je crois qu'on vient ici pour un certain temps, et puis après, c'est fini.
Il n'y a rien d'autre?
Voilà. Je ne sais pas. Peut-être que ça sera une bonne surprise.
Parions.
Oui.
Alors, Le Dernier Souffle est adapté du livre de Régis Debray et Claude Grange. Ça a été très difficile à monter parce que c'est sur la fin de vie. Donc, et les financiers et vos amis vous disaient « Ah ben non, pas un film sur la fin de vie ».
Même les proches, sauf ma femme, me dit « Tu as envie de le faire, fais-le ». Mais les proches disaient « Mais où tu vas avec ça? Qui va voir cela ?» etc. Voilà.
Et vous, ça vous intéressait parce que vous dites qu'il faut montrer les choses, montrer les problèmes.
Il faut montrer, absolument. Il faut montrer, et il faut montrer quand il s'agit des vraies histoires ou des vrais problèmes, il faut les montrer avec exactitude, sans tricher, sans cinématographiser. On est naturellement obligé de scénariser, parce qu'on va au cinéma, on va au spectacle. Mais il ne faut pas changer l'éthique des faits et des personnes, naturellement.
Il y a une question qui est posée dans le film, c'est quelle est la meilleure mort? J'ai envie de vous la poser, Costa Gavras.
Dans son sommeil.
Oui, c'est ce que répond Podalydès à la gitane, oui. Mais elle dit il faut vivre sa mort.
Il faut vivre sa mort.
Qui a raison?
Non, mais c'est un peu, je ne sais pas.
Bah oui, non, parce que je disais tout à l'heure que c'était socratique.
Françoise Lebrun vit sa mort, finalement, parce qu'elle prolonge son temps. Elle dit même à un moment donné, j'espère que cette fois-ci, je vais vivre jusqu'à dimanche prochain.
C'est vrai.
Elle a passé un dimanche, elle continue. Donc, c'est peut-être ça aussi, vivre sa mort.
En Grèce, on n'aborde pas du tout le deuil comme en France.
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que d'abord, il y a une sorte de soirée où tout le monde s'est réuni autour du corps. Évidemment, il y a des chants et des pleurs, et puis il y a des discussions. Parfois, ça finit avec des grands rires. Et après, on reprend la mélancolie, la tristesse, etc. Et puis certains vont dormir à côté parce qu'il faut passer toute la nuit. Et puis, ils vont aussi à la cuisine. Il y a des choses toutes prêtes, voilà. Et puis, jusqu'au matin, jusqu'au moment où on va enterrer la personne, enfin la mort, voilà. C'est une sorte de... À mon avis, c'est une façon déjà de s'habituer. C'est une sorte de deuil. On commence le deuil presque avant que la personne soit à la tombe. Et je pense que c'est une habitude pour les enfants. Moi, j'ai vécu ça comme enfant et c'était absolument formidable parce qu'on restait éveillé toute la nuit, on allait ici et là, on écoutait. Mais je pense que peu à peu, dans les grandes villes, ça se perd naturellement parce que la vie est différente, les lieux sont différents, etc.
Justement, c'est un enterrement que vous avez eu votre première leçon concernant ce sujet par votre grand-père. Vous aviez 7 ou 8 ans.
Oui.
Et tout le monde levait, le pope et tout le monde...
Le pope et les femmes, etc. pleuraient, levaient les bras vers le ciel. Et mon grand-père, qui était un vrai philosophe à mon avis, il m'a montré la tombe. Voilà, il dit c'est là. Et j'ai compris le sens de ce qu'il m'a essayé de me dire beaucoup, beaucoup d'années plus tard.
Et c'était pas trop décourageant ?
Non, c'était plutôt amusant parce que je voyais que le ciel qui montrait tous les autres, il n'y avait rien dans le ciel. C'est-à-dire le ciel était à l'infini, donc c'est trop loin, il ne peut pas y avoir grand-chose.
Est-ce que vous vous êtes documenté en dehors du livre pour Le Dernier Souffle ?
Oui, bien sûr, j'ai visité 2 ou 3 lieux où ça se passe et j'étais surpris de la qualité de ce qui s'y passe et aussi l'accompagnement permanent de la personne malade, voilà.
Est-ce que vous suivez le débat sur la fin de vie à l'Assemblée nationale ?
Oui, on avait espéré sortir que cela soit passé avant les élections. Ouais. Maintenant, ils nous rattrapent, ou nous rattrapons, je ne sais pas comment dire. Et je pense qu'il faut quand même trouver des bonnes lois. Une loi, comme ils le disent, ça ne suffit pas. Il faut plusieurs lois pour encadrer cette période de la vie par laquelle nous allons passer tous, et qu'il faut soit bien paré, et surtout qu'on puisse finir dans des bonnes conditions.
Dans votre film Z, on apprend que c'est la lettre qui signifie en grec « il vivra ». Et dans votre adaptation de Romain Gary, Claire de femme, il y a une femme malade qui a décidé que ça suffisait avec la souffrance et la dégradation physique et qui décide de se suicider. Absolument. C'est déjà un sujet qui vous préoccupait à la fin des années 70 ?
Bien sûr, absolument. Absolument. Je pense qu'à un moment donné, si on a envie de finir, il faut avoir les moyens de le faire. Pas passer sous le train ou sauter du 7e étage, mais avoir, pas l'hôpital, pas les soins palliatifs, mais un autre endroit. Ça existe en Suisse, ça existe un peu partout. Parce que les docteurs ne veulent pas faire ça. Moi, j'ai un frère qui est docteur, et quand je lui dis, quand je serai gâteux complètement, il faut me piquer. Il me dit, non, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour guérir, non pas pour faire mourir. Et ça, c'est très, très incompréhensible.
Mais alors, moi, j'ai souvent pensé, en regardant votre film, au malade imaginaire de Molière. Parce que c'est aussi sur la vérité. La vérité, ça vous obsède, Costa Gavras. Dans Z, c'était la recherche de la vérité où un juge dévoilait un crime d'État sans craindre les intimidations ou les conséquences. Et là, c'est une réflexion. Est-ce qu'on doit dire la vérité aux malades ? Est-ce que les malades veulent entendre la vérité ?
Voilà, il y a des endroits où, en Amérique, par exemple, on le dit. On dit, vous allez mourir. Je ne sais pas, dans une semaine ou dans un mois, on ne sait pas. On le dit carrément. En France, on essaye de le faire comprendre, de plus en plus, en s'approchant de plus en plus, comme on le voit un tout petit peu dans le film, et on ne le dit surtout pas aux proches. Parce que les proches, ça les concerne, mais sans les concerner directement. Ils le disent, ils préparent le malade surtout. Oui.
Donc c'est au malade qui a la responsabilité de le dire à ses proches s'il le veut.
S'il le veut, absolument. Eh ben, c'est une affaire très personnelle, vous savez, la mort.
Oui, c'est vrai, la vie aussi, finalement.
Oui, parce que le film est sur la vie aussi. Essentiellement, pour moi, le film est sur la vie.
Mais oui, puisque en fait, c'est une sorte d'entre-deux, les soins palliatifs. On s'apprête à mourir et on est toujours en vie. Il y a encore du désir de vie. Exactement. Il y en a qui ont des amis motards qui viennent leur rendre visite. Il y en a qui veulent manger des huîtres. Vous
Exactement.
Pensez que ce serait quoi, vos dernières volontés ?
D'avoir mes enfants, ma femme autour de moi. Et surtout, de partir avant eux.
Ça, c'est un peu égoïste. C'est pour pas souffrir. Ce sont eux qui vont souffrir. Le docteur Massé dit, nous rendons l'inacceptable supportable. Vous pensez que c'est possible ?
Si.
Oui ?
Si. Si. Il m'est arrivé une chose, en présentant le film à Bordeaux, à la fin, une femme est venue me dire, j'étais content que vous parliez de malades qui prévoient leur fin, parce que mon mari, l'après-midi, m'a dit que je vais partir cette nuit. Et que je suis resté avec lui, qui est la nuit, et il est parti. Voilà. Et ça, je trouve ça absolument admirable.
Vos mémoires s'intitulaient « Va là où il est impossible d'aller ». Ça ne vous a jamais fait peur ? Vous n'avez jamais eu peur de montrer quoi que ce soit dans vos films ?
Non. Non, non.
Même des risques politiques ?
Non. Quand je suis sûr que j'ai raison et que ça se passe comme ça, qu'il faut le dire, absolument. D'ailleurs, ça nous a coûté très cher. À mon temps, Saint-Proun et moi et Simone, quand on a fait l'aveu. On a perdu des amis, on a perdu des gens qui nous ont reproché beaucoup d'avoir fait une mauvaise action, disait-il.
Et justement, c'est par Montand que vous êtes entré en politique. Enfin, que vous avez été sensibilisé à la politique.
Sûrement, dans ces milieux-là, mais surtout grâce à Montand et à Signoret que j'ai fait mon premier film, oui. Absolument, oui.
Il paraît qu'il y avait des soirées dans leur maison de campagne où vous parliez avec Pierre Mendès France.
Il y avait très souvent des personnages très importants et ils parlaient politique. Moi, j'écoutais, j'étais plutôt observateur et c'était des grandes leçons. D'avoir ces grands hommes parler de la politique d'une manière détachée complètement et sans fanatisme.
Votre père, d'ailleurs, ce qui a fait que vous êtes venu en France, Costa Gavras, c'est que votre père était considéré comme communiste, mais sans l'être vraiment.
Pas du tout, il était anti-royaliste. Et parce qu'il avait fait une guerre que les rois ont provoquée, qu'il a vu tous ses amis tués. Voilà. Et c'est pour ça, à l'époque, on était considéré comme communiste.
Il y a un leitmotiv dans votre film, c'est « Le diable se trouve dans les détails ». Comment l'entendez-vous ?
Bah parce que la vie est faite des détails. Elle est faite de secondes, des minutes... Et puis, on fait des toutes petites choses, voilà. Et ça grandit, ça devient grand. Et il faut surtout prendre soin de ça, d'être petite chose.
Alors, j'ai une question sur un détail, une question cruciale. Il y a plusieurs croissants qui jouent dans ce film, et ils ne sont jamais mangés. Que sont-ils devenus ?
Oh, ils ont été mangés à la fin du jour.
Ah d'accord,
mangés, oui.
Il y a plusieurs scènes où figurent des croissants, et je me disais, mais personne ne les mange, c'est pas possible. Tout à l'heure, vous aviez dit que c'était un film sur la vie, et c'est vrai que vous montrez la lutte entre Eros et Thanatos. Il y a par exemple les jeunes enfants qui tombent sur un film pornographique.
C'est ça.
On dit que la libido permet aussi la création, et votre philosophe, Fabrice Toussaint, n'arrive pas à écrire. Et on lui dit, t'as qu'à écrire un livre sur tes angoisses comme Gérard de Nerval, ça te libérera, ça c'est son frère. Et un obstacle, ça se surmonte en écrivant, dit sa femme à son éditeur. Est-ce que vous l'avez vérifié, ça ?
J'ai entendu ça, et j'ai parlé avec Régis Debray de ça, il m'a dit, ça se peut.
L'écriture, ça peut aider ?
Ça peut aider.
Vous ne l'avez pas expérimenté ?
Ah, j'ai expérimenté, dans la mesure où j'ai écrit des scénarios, puis j'ai écrit aussi un livre. J'ai passé un an à écrire un livre, et ça a été des moments difficiles, mais aussi des moments exaltants.
Quelque chose qui frappe aussi quand on regarde ce film, c'est que ça pourrait être une pièce de théâtre par la richesse de ses dialogues, et je sais que vous êtes assez influencé par le théâtre grec.
Oui, que j'ai connu en France, parce qu'on les jouait très peu en Grèce à l'époque.
Ah oui ?
Parce qu'il y avait des directions politiques ou des idées politiques qui ne plaisaient pas au pouvoir à l'époque. Oui, j'ai découvert en français en France et c'était vraiment une très très grande surprise pour moi.
Quelle tragédie vous recommanderiez aux auditeurs ?
Électre.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Costa Gavras, quand vous arrivez à Paris et que vous vous inscrivez en lettres à la Sorbonne, vous êtes à ce moment un jeune adulte ayant connu en Grèce l'occupation nazie, les gens pendus sur une place par les Allemands et plus tard les gens tués avec des coups de bâton pendant la guerre civile. Oui. Est-ce que cette violence a participé à celle que vous mettez en scène dans vos films, je pense à Z par exemple, dont le début est immédiatement très violent ?
Probablement, ça a dû me marquer absolument, même si, étant en France... Quand on entend ce type de violence, ça paraît un peu bizarre, ça paraît impossible. Mais finalement, on s'aperçoit que c'est la pure des choses. Oui.
Oui, parce que vous dites qu'en fait, il n'y a pas pire qu'une guerre civile, parce qu'avec une occupation, on peut encore se battre et résister, mais une guerre civile, on ne peut rien faire.
On ne peut rien faire. Et le frère tue le frère pour des raisons politiques.
Éric von Stroheim était un personnage considérable. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il était un pionnier du cinéma mondial. Que son influence a été considérable sur le cinéma américain et ensuite, quand il est venu en France, il était acteur. C'était un homme excessivement fort.
C'est l'acteur Paul Meurice au sujet du réalisateur Éric von Stroheim en 71, Costa Gavras. Vous en parliez tout à l'heure, puisque c'est le film Les Rapaces,
c'est ça.
Qui date de 24, qui vous a fait découvrir que le cinéma pouvait montrer des choses sérieuses et pouvait...
Montrer des tragédies, pas seulement des westerns, pas seulement des films d'action, pas seulement des films galactiques où tout se passe très bien, mais la vie.
Vous êtes président de la Cinémathèque française, vous aviez déjà été nommé en 2007, et c'est justement en la fréquentant que vous avez découvert une autre écriture que la littérature qui vous convenait mieux.
Absolument. Physiquement et aussi par rapport aux mes connaissances, par rapport aussi au regard dans la société. Ça aussi, parce que je pense que le cinéma, depuis son existence, il a un regard permanent sur la société. Et il découvre plein de choses. Je crois même, d'une certaine manière, qu'il a changé le monde.
Par exemple ?
Oh, pas un exemple, c'est que nous avons rencontré des hommes et des femmes de notre bout du monde, et ils nous ont rencontrés. Déjà, on a presque dialogué avec eux. Ils nous ont donné des émotions, on leur a donné des émotions. Et ça, c'est extraordinaire.
Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive ?
J'ai dit, descendre du train en marche.
Oui, ben, ça doit être ça. Allez, tenez-vous bien. Attention. Allez.
Ah, mon vieux papa. Heureusement que j'étais là. T'ennuies pas que je t'appelle, papa ?
Ben non, je m'ennuie pas.
C'est pas, on va aller boire un petit verre, tous les deux, sans rien dire à personne.
Merci, mais moi je ne bois pas.
Ah ben la signora, elle a peut-être envie d'aller porter un toast.
La signora, elle a surtout envie de roupiller. Allez.
Un singe en hiver d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo et Jean Gavin. Costa Gavras, vous avez travaillé sur ce film ?
Oui, absolument. J'étais assistant de Verneuil à ce film. C'était des moments extraordinaires avec Belmondo et Gabin. Parce que ça commençait comme cela. Ils ne se connaissaient pas. Il y a eu un déjeuner et Verneuil m'a dit « Viens, tu as l'âge, tu connais un peu Belmondo. Ça serait mieux si ça ne colle pas très bien avec le vieux. » On l'appelait le vieux. Et le vieux est arrivé. Il a été directement chez Belmondo, il l'a pris dans ses bras et lui a dit « mon fils
oh. ».
Et alors je suis parti, je ne suis pas resté au déjeuner, je n'avais rien à faire.
C'est un chef-d'œuvre. Quel souvenir gardez-vous d'Henri Verneuil ?
Un bon souvenir, très bon souvenir. Il savait exactement ce qu'il voulait, il s'est préparé très bien, les scénarios étaient bien. Il avait une très bonne relation avec son équipe et avec les acteurs aussi. Jamais des cris, jamais des violences.
Vous êtes parti sur un chalutier au large du Groenland pour
oui,
lui.
Oui, parce qu'il devrait faire un autre film. Il devrait faire un autre film qui s'appelait Au large d'Éden. Et Gabin devrait jouer un capitaine de pêche à la morue. Eh bien, au bout de deux semaines, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, tu penses que le Gabin pourra passer un ou deux jours sur le bateau ? L'enfer, c'était l'enfer. J'ai dit non. Et puis, ils ont changé de sujet. Quand je suis rentré, ils avaient choisi un autre sujet. Et ils ont fait l'autre film, finalement, avec Belmondo.
Vous avez aussi été assistant pour Jacques Demy, René Clément, Marcel Ophuls, Claude Pinoteau. Est-ce qu'il y a une leçon de cinéma que vous avez tirée de leur fréquentation ?
Ah oui, et puis il y avait René Clair,
oui.
Qui était à l'époque du cinéma muet, qui est passé aussi au parlant. Et ça, c'était une leçon permanente.
Pour le scénario, il vous a pris en plus comme
absolument,
assistant.
Absolument, il prenait un assistant en scénario, était toujours à côté de lui en permanence. Etc. Là, c'était la première grande leçon, et après avec Jacques Demy. René Clair m'avait dit d'ailleurs, si tu veux faire du cinéma un jour, va en montage. Voilà. Et ça, c'était une formidable, formidable indication. Et après, avec Jacques Demy, parce que j'ai vu comment il travaillait avec les acteurs. Il y avait une douceur extraordinaire. Il y avait une sorte de cohésion, une sorte d'affection qu'il y avait entre les acteurs et lui-même pour créer les personnages. C'était la grande leçon. C'est là où j'ai connu finalement le rôle des acteurs. Parce que je travaillais un tout petit peu avec Clouzot, qui était très, très, très violent avec les acteurs.
Et qui faisait pourtant des chefs-d'œuvre.
Mais après, c'était une méthode aussi. Ça marchait très bien, il a fait des très beaux films.
Ah oui.
Mais je ne pense pas que ça soit la meilleure, voilà.
Et vous, quelle méthode employez-vous ?
Ah, moi, j'aime bien avoir des très, très bonnes relations. Je considère même que les acteurs sont les vrais collaborateurs du metteur en scène, après le co-scénariste. Parce que c'est eux qui portent au public l'histoire, quand ils sont bons. Ils peuvent la détruire aussi quand ils ne sont pas très bons.
Oui. C'est toi qui as tué Eliane Darès ?
Je n'ai tué personne.
Qui a eu l'idée au départ ?
Il ne pouvait pas sentir Eliane. Il était jaloux. Le jour où il a appris qu'elle voulait m'aider pour ma ferme là-bas, il est devenu furieux. Moi, Eliane me fatiguait, je préférais partir avec lui. Seulement sans elle, on n'avait pas d'argent.
Alors, vous avez décidé ?
Il a décidé, lui. Il disait qu'on peut commettre un crime parfait du moment qu'il est sans motif. On savait qu'Eliane venait de Marseille. Donc, on tue quelqu'un dans son compartiment, quelqu'un qu'on ne connaît pas. L'enquête part sur cet assassinat, et puis on s'arrange pour éliminer deux autres personnes, dont Eliane. Il disait que la police enquêterait sur le premier crime, et naturellement, lirait les deux autres à celui-ci, considérant les victimes comme des témoins éliminés.
Et Darès était le vrai motif ?
Bah oui, évidemment.
Et tout ça pour six briques.
1965, votre premier film, Costa Gavras, oui. Compartiment tueur, adapté du livre de Sébastien Japrisot.
Trintignant et Montand.
Bah oui, vous êtes fidèle à vos équipes, Trintignant et Montand, vous les avez dirigés à plusieurs reprises.
On a travaillé ensemble pendant... Oui, absolument. Mais j'aime pas le mot diriger, excusez-moi.
Ah oui ?
Parce que je ne pense pas que je ne dirige pas les acteurs.
Alors, quel mot préférez-vous ?
Collaborer.
Collaborer.
Oui.
Donner des indications ?
Oui, dire voilà, on fait ça, mais je pense aussi que le dernier mot, c'est le metteur en scène qui doit l'avoir.
Bah oui, quand même.
Voilà. Oui, 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 parce qu'alors ça devait être un film de n'importe qui, oui, d'un comité. Oui,
donc il dirige un petit peu quand même.
Oui, oui.
Il a une baguette, mais elle est cachée. Vous avez fait beaucoup d'adaptations et de collaborations avec des écrivains, Georges Semprin pour Z, adapté du livre de Vassilis Vassilikos, Romain Gary pour Claire de Femme, j'en parlais tout à l'heure, Jean-Pierre Chabrol pour Un homme de trop, Arthur London pour L'aveu, une pièce allemande pour Amen, et Westlake, que j'adore, pour Mad City, qui est en caméo dans le film.
Oui.
Westlake, quand même, la série noire, et aussi Ordo, vous l'avez lu, Ordo ?
Oui.
Oh, c'est merveilleux.
Formidable, formidable.
Parce que ce n'est pas en série noire.
Non, c'est pas en série noire, c'est dans une autre édition, je ne sais plus, je me souviens plus.
Je crois que c'est chez Rivage aussi, mais voilà, c'est, Rivage, ça sort c'est ça. Du lot.
Voilà.
Ah, oui. C'est sur une histoire d'amour.
Oui. Enfin, mais c'est un écrivain formidable.
Il est extraordinaire.
Extraordinaire, il a touché à tous les sujets avec une grande, grande sensibilité aussi, délicatesse.
Est-ce que être entouré d'autant d'écrivains, ça vous permet à nouveau de rester à votre première passion qui est la littérature ?
Oui, je pense aussi, surtout parce qu'il y a quelqu'un qui a fait tout le travail. Hein, et après...
Il paraît que dans les influences sur votre cinéma, il y a eu Eisenstein, Bergman, Ford et Kurosawa. Et je vous ai demandé de choisir quelques films dont on va parler au cours de l'émission. Et il y a ce chef-d'œuvre absolu, Les Sept Samouraïs.
Sept Samouraïs, film extraordinaire.
Je vous laisse en parler, c'est extraordinaire.
Non, film extraordinaire. Les films, ils l'ont refait, les Américains, très mal, à mon avis, avec des cowboys. C'était vraiment médiocre. Parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment un film sur la société japonaise de l'époque et les relations de pouvoir entre les très, très pauvres et les moyens. Voilà, ça, c'était un film extraordinaire et fait admirablement avec des acteurs étonnants.
Messieurs, il y a un problème. Cette salle ne remplit pas les conditions de sécurité requises.
Il y a 15 jours, on y donnait des spectacles, monsieur le directeur de la police.
Voici un rapport. Le plus grave, c'est qu'il manque une issue de secours.
Il n'y en a jamais eu.
Maître, pour les spectacles, ça n'est pas grave. Parce qu'ils ne présentent, eux, aucun danger. Par contre, une réunion comme la vôtre risque d'échauffer les esprits.
Nos réunions ne représentent aucun danger, en aucun cas.
Enfin, monsieur. Je n'ai aucune raison de vouloir empêcher cette réunion. Seuls, les rapports des services compétents dicte mes décisions. Dans cette affaire, je suis totalement neutre.
Dans ce cas, pourquoi nous faites-vous suivre ?
Mais pour votre sécurité. Ordre est venu de la capitale, du ministère de l'Intérieur, d'assurer la protection des membres du comité de votre association contre les agissements éventuels des extrémistes.
Des extrémistes que vous ménagez ?
Monsieur le député, il reste des salles qui réunissent toutes les conditions de sécurité. Tenez, celle de l'Union des employés, juste en face de votre hôtel. Vous n'avez que la place à traverser. Dans cette affaire, je suis neutre. Croyez-le bien.
Bien, colonel.
Thriller politique kafkaïen et chef-d'œuvre Z. Votre film Costa Gavras, sorti en 69 d'après le roman de Vassilis Vassilikos, retraçant l'assassinat du leader de la gauche, le député Grigoris Lambrakis, à Thessalonique en 63, crime organisé par l'armée et la police et camouflé en accident. Et je vous avais demandé un choix musical et vous avez choisi justement la musique du compositeur et homme politique grec Mikis Theodorakis. Et je vous laisse raconter ce qui s'est passé pour le film.
Bah écoutez, Mikis à l'époque, il était en prison. Et on a essayé de le contacter, c'était impossible. Finalement, on a réussi à le contacter. Et il a envoyé un petit mot, il dit « Costa peut prendre, c'est un petit papier de cigarette, bon, Costa peut prendre toute la musique qu'il veut, de l'ensemble de ma musique. » Et j'ai fait un choix, ici et là. On a reconstitué l'orchestre et on a fait la musique. Ça a été vraiment absolument nécessaire pour le film. Je me souviens visitant un grand magasin à New York quand le film est sorti, et on regardait les disques, il y avait le disque un peu partout. Et un vieux monsieur qui m'approche me dit « Prêt à acheter ce disque, il est formidable, j'étais avec Jacques Perrin, acheter ce disque, la musique formidable. » C'est un grand musicien, un grand homme aussi, de musique.
Ça a été tourné, Z, en pleine dictature des colonels en Grèce, donc vous l'avez tourné en Algérie.
Oui.
Et le film se termine par une longue liste de choses interdites par la junte, parmi lesquelles apprendre le bulgare, apprendre le russe, les mathématiques modernes, les Beatles, Sophocle, Tolstoï, Eschyle, Socrate, Ionesco, Sartre, Tchekhov, Beckett, les grèves, les mini-jupes, la musique moderne, écrire que Socrate était homosexuel, et le who is who. Alors pourquoi le who is who était interdit ?
J'ai jamais compris.
Bah non, c'est
J'ai bizarre. Jamais compris, mais c'était dans la liste. Mais c'était des colonels d'extrême droite, vraiment des vrais fascistes préparés pour cela. Et quand on reparle aujourd'hui du fascisme, etc., on s'est dit qu'est-ce qu'ils vont nous interdire s'ils arrivent un jour au pouvoir.
Vous traitez souvent du totalitarisme dans plusieurs de vos films. Ne trouvez-vous pas que l'injustice est finalement, hélas, fondamentalement humaine ?
Absolument. C'est ce que les hommes ont inventé, c'est que le plus humain, le plus profondément humain. Et il faut vraiment se battre pour que ça continue, pour que ça ne change pas, que ça ne devienne pas autre chose ou mi-chemin, comme il arrive parfois. D'ailleurs, j'ai fait un autre film sur la justice qui s'appelle Section spéciale. Quand pendant l'occupation, on a violé la justice, si j'ai pu dire, avec une loi qui ne correspondait pas à ce qu'il fallait.
Vous croyez tout de même en la justice ?
Profondément, oui.
Almost blue, almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you. Almost all the things that your eyes once promised, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Almost blue, flirting with this disaster became me. It named me as the fool who only aimed to be almost blue. It's almost touching, it will almost do. There is part of me that's always true. Always. Not all good things come to an end. Now it is only a chosen few. I've seen such an unhappy couple. Almost me.
Le standard de ce soir, chers auditeurs, voici ma chanson préférée d'Elvis Costello, Almost Blue, dans la 20e heure sur France Inter.
Excusez-la, Michel. Lydie et Ivo, vous n'avez peut-être pas l'habitude. Tout le monde aujourd'hui exige d'être heureux, même les immigrés. Nous, les vieux, nous avons appris.
Si bien appris que le malheur est devenu votre deuxième nature, Sonne.
Ça suffit. On est tout de même en France, ici.
Non, Lydie n'a pas appris à être malheureuse. C'est une révoltée.
Ben voyons, la vallée des larmes. Nous sommes ici-bas pour souffrir. Qui a dit que le juif n'était pas chrétien? Si jamais je suis heureuse, je vous promets, Sonia, d'aller à Lourdes pour être guérie.
Au revoir, Mishinka. Au revoir. Prenez bien soin d'elle.
Yves Montand, Romy Schneider et Lila Kedrova dans Claire de femme, tiré d'un roman éponyme de Romain Gary. C'est la rencontre de deux désespoirs, c'est sorti en 79, Costa Gavras. On voit parfois le nom de Kundera y être associé. Est-ce que c'est une légende?
C'est une légende, oui.
Ah oui? Parce qu'on le trouve à certains endroits.
Sortir, oui.
Romy Schneider dit à un moment du film « Je n'ai plus aucune envie de vivre » et Yves Montand lui répond « C'est encore la plus vieille façon de vivre » et je voulais savoir quel était votre rapport au désir de vivre et à la mélancolie.
Bah écoutez, j'ai passé différentes périodes. D'abord pendant l'occupation, on était sans père et avec la mère qui faisait tout à la maison, comme j'étais le premier fils, enfin le premier, et il fallait que je devienne adulte. Et j'avais 10, 11 ans, comme ça. Et donc j'ai senti un poids énorme sur moi. Et il fallait faire des choses, s'occuper des autres, etc. Et au village. Et après, plus tard, j'ai senti la même chose quand le père a été en prison. Et c'était un poids pour un enfant très difficile, très agréable.
Ah oui?
En même temps.
Pourquoi?
Oui, mais de première vue. Mais après, quand il fallait entrer dans les problèmes, alors ça devenait un poids énorme parce qu'on ne savait pas comment faire. Il fallait se débrouiller à chaque fois, écouter les conseils des uns et des autres, qui étaient très souvent contradictoires.
Oui, comme les humains.
Oui, voilà. Mais j'ai fini par apprendre la vie, peu à peu. Et peut-être, c'est peut-être ça aussi qui me sert pour continuer ma vie.
Ce qui vous intéresse dans vos films, plus que le pouvoir, c'est la résistance. Et dans Clair de Femme, c'est la résistance au malheur.
Absolument.
Pourtant, c'est vraiment deux désespoirs qui se rencontrent.
Exactement. C'est ça qui a été formidable. Et décrit par Romain Gary d'une manière formidable. Et quand je lui ai dit que je voulais le faire, le film, il m'a dit, faites-le. Et après, il m'a dit, je ne veux pas me mêler de la production ni du scénario, faites ce que vous voulez. Parce que je crois qu'il avait des très mauvaises expériences avec les Américains qui ont acheté très cher ses livres, qui ont fait des très mauvais films. Et quand le film est fini, il m'a envoyé un mot pour me dire combien il était content que pour la première fois, un de ses livres est sorti vraiment comme il avait souhaité.
Ah, c'est merveilleux.
Oui.
Pour revenir à la résistance, Costa Gavras, vous dites que les lanceurs d'alerte ont remplacé les résistants et sont une figure moderne qui vous intéresse beaucoup. Vous en êtes un finalement, un lanceur d'alerte à travers vos films ?
Oui, mais c'est quand même dans le confort, puisque en France, faire des films, ça n'est pas risquer sa vie, ça risque peut-être sa réputation, ou se faire insulter par quelques-uns, mais c'est quand même la liberté aussi, là, qui permet de faire ce qu'on a envie de faire.
Que pensez-vous de Roberto Saviano, dont l'entretien ici était diffusé hier soir, parce que je lui ai parlé du film Z, je lui ai demandé s'il s'identifiait au juge d'instruction campé par Jean-Louis Trintignant, et il a dit qu'en quelque sorte, oui.
Ben c'est heureux, très heureux d'entendre ça tant d'années après le film, voilà, par quelqu'un d'aussi respectable.
Name of missing person.
Don't you have this written down somewhere? I've answered it 1,000 times.
Name of missing person, please.
You've been in touch with our embassy down there?
Well, Senator, all they seem to know is that my son is missing. Date of disappearance.
He's been gone 2 weeks. He could be hurt or tortured.
Time of disappearance.
I looked for him everywhere. He's just gone. Vanished.
Costa Gavras, on entre dans votre film de 82, Missing, adapté du livre de Thomas Hauser, l'exécution de Charles Orman, inspiré d'une histoire vraie. Vous avez montré dedans la responsabilité du gouvernement américain dans le coup d'État du général Pinochet en 73. Palme d'or, Oscar, est présenté et étudié comme un film majeur dans les universités américaines. Est-ce que vous vous y attendiez ?
Je ne m'attendais pas tellement, pour vous dire la vérité, parce que le film est passé partout, il continue d'une certaine manière de passer, etc. Mais Universal m'a donné toute la liberté. Et j'ai fait le film dans les conditions les meilleures, en Amérique et un peu au Mexique aussi, et avec mon équipe française, enfin les deux ou trois personnes, et puis la post-production en France. Et la liberté de choisir les acteurs. Sauf quand je dis que je voulais Jack Lemmon pour faire le père. Et tout le monde se regardait, on était une grande table comme celle-ci. Il a dit, mais on fait un film comique ? J'essayais de leur expliquer qu'il avait fait des choses dramatiques. J'ai dit, par exemple, l'appartement de Bill Wilder. Il m'a dit, mais non, on rit beaucoup pendant le film. Mais lui, il ne rit pas du tout. Enfin, il a accepté, ils étaient très contents après à l'Universal.
Pourquoi mettez-vous parfois des types qui font des claquettes dans vos films, comme Le Couperet ou Clair de Femme ?
Parce que j'aurais tellement, tellement aimé de
c'est vrai
des claquettes. La seule chose qui me plaisait pas au cinéma, quand j'étais à Grèce, c'était quand les claquettistes, Gene Kelly et puis les autres, ils faisaient ça. C'était une joie formidable. J'ai jamais réussi de le faire d'ailleurs.
Alors je peux m'en aller ?
Ben oui, vous êtes libre.
Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté.
Ah, vous avez souri ? Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle. Si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard.
Oh, pariez grand, vous avez.
Pariez tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
On termine l'émission avec vos recommandations, Costa Gavras. Là, c'est un film de 45, le chef-d'œuvre absolu, Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet, avec les dialogues de Jacques Prévert.
Là, c'est une énorme production avec des acteurs merveilleux. Ils y étaient tous. Ils étaient tous, et même dans les tout petits rôles, il y avait Simone Signoret, il y avait Brun.
La chanteuse Fréhel aussi.
Chanteuse Fréhel, Nicolas, et puis il y avait beaucoup de jeunes. Et c'était un film, une grande production, qui a commencé pendant l'occupation, qui a fini d'ailleurs à la fin de l'occupation, on l'a vu après l'occupation.
Oui, ça a été tourné en
43-44. En 43-44, c'est ça, oui. Et vu 45, c'est ça, oui, absolument. Une grande production. I was trying to be nice. Wacko!
I like your friends.
I know it.
I'm a warm person. I was...
I know that.
I'm not one of those stiffs that you like with their noses up in the air. Boom, 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 with their noses up in the air. Oh, 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 awfully nice. Oh, mm, thank you. I'm not going to treat those guys. I want them to feel... I love those guys. I love them. I love anybody who bring in a house, Nick.
I know that.
Autre film que vous avez choisi, Costa Gavras, 74, une femme sous influence de John Cassavetes avec Peter Falk et Gina Rowlands.
Oui, parce que 74, vous voyez, déjà, on parle d'une femme qui veut se libérer d'une certaine manière, qui n'arrive pas à souffrir le fait d'être femme de maison, sans s'occuper des enfants, etc. Alors un soir où son mari est obligé de laisser son travail, ses enfants seront avec sa mère, et tout d'un coup elle sort, elle se libère, elle va au bar, elle raconte des gens, elle amène quelqu'un chez elle, et puis tout ça finit très très mal, et le lendemain matin, le mari qui devrait vraiment exploser, rien du tout, il est complètement indifférent.
À sa folie, parce qu'elle est au bord de la folie.
Exactement.
Et alors, il y a une scène...
Il la prend pour une folle, d'ailleurs, c'est ça.
Oui. Oui, tout le monde dit qu'elle est folle.
Qu'elle est folle, exactement. Or, elle essaye de se libérer. Et c'est formidable qu'il a fallu quand même attendre tant d'années après pour que les femmes puissent être un peu plus libres.
Vous avez aussi choisi Napoléon d'Abel Gance. Ça date de 1927. C'est l'un des derniers films muets, alors qu'on était déjà passé au parlant.
C'est
ça. Je vous laisse en parler. Ça a été restauré par la Cinémathèque.
Complètement. Les 7 heures.
7 heures.
Il était avant restauré en partie par un Anglais, et 4 heures, Kevin Brownlow, et c'était magnifique. Et c'est là que je l'avais vu pour la première fois entier, parce que je l'avais vu avant à Chaillot, présenté par la Cinémathèque française toujours. Et je me suis dit, il fallait un jour le refaire. Et quand on m'a rappelé à la Cinémathèque, la première chose que j'ai dit, il faut reprendre, il faut faire ça. Et on l'a fait, c'était magnifique. C'était un travail énorme pendant plusieurs années. Mais tout le monde a collaboré, la radio aussi, ils nous ont donné 2 orchestres, parce qu'un orchestre ne suffisait pas. Et ça a été une œuvre formidable, et on s'aperçoit d'ailleurs que c'est peut-être la plus grande œuvre française du cinéma. Peut-être, peut-être.
Ah oui, là vous donnez envie de le voir quand même.
Oui. Ah oui, oui, oui. Puis, on nous le demande partout.
Oui. Et America, America d'Elia Kazan, 1963, là j'imagine que vous êtes un peu identifié. Ne serait-ce que par les origines des personnages.
Un peu, oui, oui. Ces personnages qui partent, qui pour aller en Amérique, ils s'attendent de faire une grande, grande carrière en Amérique, puis fait une carrière plutôt pauvre comme ça.
Un grec d'Anatolie.
Un grec d'Anatolie, enfin de la partie... Oui, l'Anatolie, c'est plutôt la Turquie d'aujourd'hui, c'est ça, l'Asie mineure.
Sur fond de grandes violences.
Des grandes violences, absolument.
Vous avez choisi un livre aussi, c'est « Alice au pays des idées » de Roger Paul Droit.
Oh oui, c'est formidable. C'est un petit livre parce que... Au lieu d'aller au pays des merveilles, il va au pays des idées. Et tout d'un coup, on découvre, et alors je le conseille d'ailleurs à tous ceux qui s'intéressent un tout petit peu, ou même beaucoup à la philosophie, de voir ça, parce que cette Alice passe à peu près par la même voie, d'une certaine manière, mais elle rencontre d'autres personnes, animaux. Des petits sourires, un kangourou qui connaît tout, et puis une grosse fée qui l'amène, il va jusqu'à la Grèce antique, chez les philosophes et Socrate.
Ah bah Socrate, votre ami.
Mon ami. Et il assiste à son procès. C'est un livre magnifique, s'écrit avec une grande légèreté, et on apprend plein de choses qu'autrement, on ne sait pas comment on pourrait les apprendre et les assimiler aussi. Parce que là, on assimile tout de suite. Et la philosophie, là, a un sens. Ce n'est pas une chose lourde, racontée par un vieux monsieur qui avait des cheveux très longs et qui raconte des choses très drôles. Pas drôles, pas très, très difficiles à comprendre et drôles par ça même. Voilà. Non, c'est un livre que j'ai adoré.
Merci beaucoup, Costa Gavras.
Merci à vous.
Votre film Le Dernier Souffle est en salle et à la prochaine cérémonie des Césars, le 28 février, vous recevrez un César d'honneur, bravo, et encore bon anniversaire. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Ludovic Asselot.